L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Et ce matin, nous sommes avec le président de la commission cybersécurité du cluster OpenNC. Bonjour Laurent Rivaton.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin alors que Lagoon a connu le week-end dernier une attaque d'ampleur. C'est ainsi que l'a qualifié en tout cas son directeur général. Est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé chez Lagoon ? C'est quelque chose d'assez classique, c'est un ransomware finalement, c'est ça ?
Oui, alors l'outil qui est utilisé, donc le ransomware, en logiciel en français, est assez classique. C'est aujourd'hui un outil qui est probablement le plus largement utilisé par les cybercriminels pour gagner de l'argent, ou pour extorquer de l'argent plutôt, pour voler de l'argent. Donc la méthode est classique. Ce qui est pas anodin aujourd'hui, c'est qu'évidemment les impacts qu'on voit sont significatifs. Puis au-delà de puisque l'activité de Lagoon, c'est notamment de fournir de l'accès à Internet, et donc les clients Lagoon qui sont très nombreux sont impactés. Donc c'est peut-être ça qui est très significatif au-delà du préjudice que subit l'entreprise en tant que telle.
Et on peut se dire justement qu'une entreprise comme Lagoon, qui est spécialisée dans l'accès à Internet, est une entreprise qui est plutôt bien protégée normalement face à ces risques-là, en tout cas au moins à conscience des risques. Comment on peut expliquer que des criminels arrivent à mettre à mal une entreprise comme Lagoon ?
Alors, il faut savoir que le risque zéro n'existe pas, et quel que soit le niveau de préparation qu'on ait, on n'est jamais à l'abri de ce type de choses. Ce qui va jouer, c'est l'intention et la motivation de ceux qui attaquent. Pour le dire très simplement, sur une attaque très basique comme celle dont on peut être les cibles nous en tant que particuliers, etc., et ben c'est relativement peu préparé, c'est assez massif. Donc là, normalement, des entreprises de ce type-là sont effectivement très bien préparées pour empêcher ce genre d'attaque. Après, si un groupe de cybercriminels dans le monde décide de cibler Lagoon ou quoi que ce soit d'autre et se prépare suffisamment longtemps à l'avance, et cette préparation peut durer des semaines, des mois, voire plus, il y a relativement peu de chances d'y échapper. Oui, il y a relativement peu de chances d'y échapper, sachant qu'après, il y a des mesures qui peuvent être mises en place dans les entreprises pour minimiser les impacts.
C'est ce que disait d'ailleurs le directeur général de Lagoon hier sur notre antenne, que finalement, ça avait ciblé des points stratégiques, donc il pensait que ça avait été préparé avec beaucoup de minutie. En tout cas, il y a des enquêtes toujours dans ce genre de cas pour savoir exactement ce qui s'est passé.
Oui, tout à fait. Quand il y a des incidents de ce type-là qui arrivent dans des entreprises, il y a une première phase qui est éteindre l'incendie, hein, donc la réponse immédiate. Donc quand il y a un incendie, on cherche d'abord à éteindre l'incendie, à faire en sorte qu'il se propage le moins possible pour minimiser les dégâts. Et puis il y a aussi une enquête qui se met en parallèle pour déterminer comment l'incendie s'est déclenché. Donc là, c'est exactement la même chose qui se passe dans le monde du numérique. Il y a ces deux actions qui se mènent en parallèle, minimiser les impacts, essayer de rétablir les services, et puis parallèlement mener l'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé, avec plusieurs objectifs. Un objectif d'ordre judiciaire, hein, la plainte, essayer de trouver qui a fait quoi et éventuellement punir les coupables. Et puis aussi une partie prévention du risque, puisque quand une catastrophe comme ça arrive, quand on arrive à la décortiquer, à savoir exactement ce qui s'est passé, bah forcément, on peut mieux se préparer pour les fois suivantes qui forcément arriveront de toute façon.
C'est un secteur stratégique, il y a donc les autorités locales mais aussi nationales qui s'intéressent au sujet et à cette attaque.
Oui, alors il y a une agence qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information, qui est nationale, qui est rattachée au Premier ministre, je crois, mais qu'importe, non, donc un organisme national qui s'occupe de tout ce qui est cybersécurité, et donc les sociétés du type de Lagoon ont un lien privilégié avec ces services-là pour être aidés en cas de problème.
Alors, on parle du cas de Lagoon, on avait connu le cas de la province des Îles aussi, qui avait beaucoup fait parler, il me semble que c'était en début d'année. Il n'y a pas une journée finalement sans qu'une entreprise calédonienne ne soit victime d'attaque. Est-ce que la pression s'accentue encore sur le territoire en ce moment ?
Alors, compte tenu de la situation qu'on a aujourd'hui, qui est instable politiquement, mais aussi économiquement, et peut-être même surtout économiquement, oui, il y a une pression qui est plus forte. La raison, elle est simple, hein, c'est quand on se place du point de vue de la cybercriminalité, le but d'un cybercriminel, c'est de gagner de l'argent en faisant faire à des gens des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Et ça, pour que ça marche bien, ça marche dans tous les types d'arnaques, que ce soit numérique ou pas du tout d'ailleurs, il faut que les gens agissent vite, il faut qu'ils agissent sur l'émotion sans réfléchir. réfléchir. Compte tenu de la situation actuelle, il y a, je pense, beaucoup de gens, enfin, on est tous déstabilisés dans nos habitudes. On a tous des inquiétudes, on subit peut-être des pertes d'ordre financière parce qu'on a moins d'activité professionnelle ou on a perdu notre boulot. Et donc, on est un peu tous sur les dents et on a tendance à surréagir dans ce contexte instable, de sorte qu'on va plus facilement réagir sur l'émotion. Et donc, ça crée un terrain très favorable à ce type d'attaque. Donc, c'est normal qu'il y ait une sursollicitation du territoire sur une pression augmentée sur du territoire sur ce genre de choses. C'est enfin normal. Je sais peut-être pas le bon mot. C'est logique.
C'est logique.
D'un point de vue cybercriminalité, c'est logique que le territoire soit la cible aujourd'hui de manière plus forte que d'habitude.
Donc, à la fois des attaques comme là a pu le subir Lagoon, ou aussi des sollicitations sur Internet, des gens qui proposent des choses mirobolantes.
Ouais,
c'est ça.
Il
y a plusieurs type d'attaque.
Oui, on l'a tous vu, hein, des arnaques qu'on n'avait pas vues depuis longtemps parce qu'elles sont assez grossières, mais c'est un message qui nous dit, j'ai tant d'argent, aide-moi à les sortir. Enfin bon, tout un tas de petites arnaques, ou alors, voilà le formulaire pour avoir la subvention machin plus facilement, ou voilà, tout ce genre de petites choses qui font que quand on est dans le besoin, mettons, j'ai perdu mon salaire, hein, j'ai mes factures à payer, j'ai mes enfants à nourrir, ces petites sollicitations-là, elles vont être plus facilement repéré et je vais céder plus facilement à la tentation puisque je suis dans le besoin et donc je suis une proie plus facile que d'habitude, en fait c'est aussi bête que ça.
Et ces cybercriminels, ils sont à l'affût finalement de l'actualité justement pour aller saisir une opportunité et pour aller escroquer des gens.
Eh bien oui, puisque aujourd'hui l'information se diffuse largement partout dans le monde grâce au numérique, hein, et tant mieux d'ailleurs. Eh bien, les cybercriminels sont des professionnels qui font bien leur métier. Alors ça paraît bizarre de dire ça, mais ce sont des pros et donc ils font leur travail de repérage et de veille sur les zones qui peuvent être favorables, plus ou moins favorables à ce type d'attaque. Et évidemment, comme ça se sait que le contexte calédonien est connu, eh bien forcément, ça intéresse quoi.
Et je vais en profiter pour faire un message de prévention. Il y a aussi de faux articles qui citent Radio Rythme Bleu. Je rappelle qu'Elisabeth Noir a déposé plainte pour usurpation d'identité puisqu'il s'agit d'une arnaque liée donc à de fausses interviews qui auraient été diffusées sur notre média. Ne cliquez surtout pas sur ces liens. On parle effectivement de cybercriminalité. Est-ce qu'on peut parler aussi de risque d'ingérence? On l'a vu, il y a des gens qui ont pointé du doigt l'Azerbaïdjan, la Russie, etc. dans ce que nous connaissons actuellement. Est-ce qu'il y a un risque d'ingérence aussi en matière cyber?
Toujours. De toute façon, la Nouvelle-Calédonie étant un territoire français et la France en tant que nation ayant des amis, des ennemis, pour faire simple, forcément, si je suis une nation qui a un intérêt à déstabiliser la France, mettre le bazar en Nouvelle-Calédonie, ça peut avoir un intérêt direct ou indirect pour servir ma cause, entre guillemets. Donc oui, tout est possible. Il faut voir qu'aujourd'hui, avec le numérique, l'Internet abolit les distances. Donc en fait, on est tous... les uns avec les autres, hein. On est tous voisins très proches et donc c'est facile de n'importe où d'entamer n'importe quel type d'action dans n'importe quelle partie du monde.
Aujourd'hui, est-ce que les cybercriminels revendiquent leurs actions ou est-ce qu'il est très difficile finalement d'en connaître l'origine ?
Alors quand c'est d'ordre de la déstabilisation, il y a des choses qui doivent être vues. C'est pour faire un parallèle, qui toute proportion gardée. Hein, mais si je suis un terroriste ou un activiste plutôt, je vais commettre une action et je vais le revendiquer puisque je le fais dans le cadre d'une action d'activisme. Et donc il faut forcément que tout le monde sache pourquoi l'action a été faite pour que je puisse pour que ça porte la cause que je défends. Donc dans ce cas-là, il y a un intérêt. Et sur la partie cybercriminalité, comme le but c'est de gagner de l'argent, forcément si je vous arnaque, il faut que je vous sachiez par qui vous êtes arnaqué, de manière à ce que vous puissiez me donner l'argent que je réclame en contrepartie de l'action. Tout en se faisant pas attraper, voilà. Donc oui, c'est souvent revendiqué, c'est rarement anonyme en fait, au sens large, au sens strict, dans le sens où on subit quelque chose et on sait pas du tout d'où ça vient. Ça n'aurait pas grand intérêt, me semble-t-il, que ce soit totalement anonyme, en fait.
Alors, Laurent Rivaton, justement, peut-être un peu de prévention pour nos auditeurs. On le disait, si on est victime d'une arnaque comme ceci, quelqu'un nous demande une rançon, qu'on soit une entreprise ou autre, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quel est le premier geste à faire?
Alors, je pense que la première chose, c'est toujours de réfléchir. Enfin, il ne faut jamais agir à la va-vite. En fait, les choix qu'on fait sous la pression et dans l'urgence, l'expérience montre qu'ils sont jamais les meilleurs, en fait. Donc, il faut toujours prendre le temps de réfléchir un petit peu, pas trop. Là, si on voit dans le cas de Lagoon, plus ils attendent pour agir, et bon, ils n'ont pas attendu, hein, ils ont agi très vite, plus il y a des impacts sur leurs clients, etc. Donc, c'est mauvais pour eux. Après, dans les entreprises, en général, il y a des plans qui sont prévus, c'est-à-dire que ce type de sinistre est prévu, a été anticipé, et donc il y a des plans d'action qui sont déroulés. De sorte que les personnels techniques, notamment, le jour où ça arrive, eh ben, ils ne soient pas dans la panique totale, ils sachent précisément ce qu'ils ont à faire. Donc il y a des, en général des cellules de crise qui se mettent en place, avec des rôles qui sont attribués à chaque personne, des gens qui sont chargés de la communication, des gens qui sont chargés du rétablissement, des gens qui sont chargés des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé, etc. Et chacun, sachant ce qu'il a à faire, eh ben, le fait sereinement. Les gens se sont entraînés au préalable, et donc ça se passe dans les conditions les moins pires possibles, on va dire. Bon, pas dire le meilleur possible, mais disons le moins pire possible.
Mais ça, ça peut être le cas d'une entreprise comme Lagoon, qui a un savoir-faire, une expertise dans le domaine. On a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent des moyens numériques. Toutes les entreprises quasiment ont recours au numérique, et pour autant, sont pas forcément prêtes à cela. Est-ce que le monde économique calédonien est prêt à subir ce type d'attaque et à réagir?
Ah, alors, mon avis, c'est que globalement, le monde économique calédonien est assez mal préparé. Cela dit, la taille d'une entreprise ne dispense pas. Si je prends mon cas personnel, mon entreprise est toute petite, pourtant elle est très dépendante du numérique, et par exemple, je suis client Lagoon. Je ne me suis même pas aperçu dimanche qu'il y avait, un défaut de service, parce qu'étant très dépendante du numérique, j'ai fait le choix, dans mon plan de continuité d'activité, d'avoir deux fournisseurs d'accès différents, et qui fonctionne en permanence et en parallèle. Et donc, bah, quand Lagoon est tombé en panne dimanche, bah, je ne m'en suis pas rendu compte, puisque ça a continué à fonctionner sur l'autre fournisseur d'accès. Voilà. Mmh. Et donc, c'est des mesures qui sont finalement simples, qui ont un coût, hein, puisque de payer deux abonnements, ça coûte forcément plus cher que d'en payer un seul. Mais en tant que dirigeant d'entreprise, il y a un calcul à faire, un arbitrage. Est-ce que ce surcoût vaut la peine par rapport au risque que j'ai si jamais j'ai plus d'internet et que je peux plus travailler du tout? Moi, j'ai estimé à l'époque que ça valait le coup, au sens strict du terme, et donc je l'ai fait.
C'est le cas aussi de certaines entreprises qui n'ont plus de site internet aujourd'hui parce qu'ils sont hébergés chez Lagoon. On l'a vu dans des banques, on l'a vu dans d'autres types d'entreprises.
Tout à fait.
Ça aussi, c'est un risque à prendre en compte.
Ouais. Alors après, suivant le type de site internet, hein, si c'est un site simplement institutionnel, qui évidemment est important mais pas vital, ça va être très différent que si c'est un site de commerce en ligne, par exemple, dont on tire tout son revenu. Et donc, en fonction de son exposition aux risques et des risques qu'on encourt, eh ben, on va prendre des mesures qui vont être différentes en fonction de l'entreprise. Là, par exemple, pour revenir sur Lagoon, il est probable qu'actuellement, ils travaillent d'arrache-pied pour rétablir le service de connexion Internet de leurs clients. S'ils avaient fait du commerce en ligne, peut-être que c'est pas ça qu'ils auraient fait en premier. Peut-être que c'est le rétablissement de leur site de vente en ligne qu'ils auraient fait en premier. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, on priorise et on choisit, et c'est donc son exposition risque.
On priorise en fonction du contexte de l'entreprise, en fait.
Lagoon qui indiquait d'ailleurs hier dans une petite mise à jour d'un point de situation que les services revenaient petit à petit à la normale et qu'en tout cas Internet pouvait être redéployé chez un certain nombre de clients. Donc les choses semblent avancer de ce point de vue-là. Quand on est aujourd'hui client Lagoon, ils permettent aussi de poser des questions, parce que je suppose que les gens sont inquiets quand son fournisseur d'accès à Internet est piraté. On ne sait pas encore s'il y a eu des fuites de données, etc. Aujourd'hui, on est client, on est un particulier, on est victime aussi et dommage collatéral finalement de cette cyberattaque. Quelle est la marche à suivre? Sur quoi on doit s'inquiéter? Et est-ce qu'on doit s'inquiéter d'ailleurs?
Inquiéter, je sais pas, parce que l'inquiétude, c'est un terme qui est fort, enfin, de mon point de vue. En tout cas, il faut s'en préoccuper, enfin, il faut s'en occuper. Là, typiquement, quand on regarde les schémas classiques d'attaque par ransomware, il y a toujours plusieurs parties. Il y a la partie prise en otage des données par chiffrement et demande de rançon, hein, donc c'est la première partie. Et aujourd'hui, dans quasiment tous les cas d'attaque par ransomware, il y a aussi une capture de données, c'est-à-dire que les cybercriminels, avant de bloquer les données, les récupèrent de manière à pouvoir aussi demander des rançons pour pas publier, etc. Et donc il y a un risque très fort de fuite de données. D'ailleurs, je suis quasiment certain que Lagoon a fait la démarche de déclaration auprès de la CNIL, puisque c'est une obligation dans le cadre du RGPD, etc., hein, de déclarer ce genre de choses. Et donc il y a une précaution que moi, en tant que client, je peux prendre, c'est les mots de passe que j'utilise pour mes connexions chez Lagoon, bah, les changer. Surtout si j'utilise les mêmes mots de passe pour d'autres accès, ce qui souvent arrive encore aujourd'hui, bien que ce soit pas une bonne pratique, mais ça arrive souvent. Et donc, l'échanger, ça coûte pas grand chose. Et puis si jamais il y a vraiment une fuite de données, si jamais il y a des cybercriminels qui se sont emparés de mon mot de passe que j'utilise chez Lagoon, et ben en fait le cybercriminel ne pourra pas l'utiliser pour d'autres de mes accès. Donc c'est une précaution toute bête qui coûte pas grand chose et qui peut éviter le pire.
Donc finalement, s'ils ont pris des données, c'est essentiellement son mot de passe pour son espace client sur le site du fournisseur, quoi.
En fait, on n'en sait rien. Oui. Mais
ça peut être aussi de la donnée personnelle.
Ça peut être tout un tas de choses. Il y a une enquête qui dira qu'est-ce qui a potentiellement été récupéré. Hein. Donc ça va prendre du temps, parce qu'une enquête, ça prend toujours du temps. C'est compliqué, c'est fastidieux. Donc il faut pas du tout que les gens s'attendent à ce que demain matin, il y ait un résultat de l'enquête exhaustif sur qu'est-ce qui a été fait exactement, etc. Déjà, Lagoon souhaitera peut-être pas communiquer sur certains détails, etc. Et c'est tout à fait son droit en tant que victime. Hein. Faut rappeler que l'entreprise est victime, donc il faut vraiment être respectueux de ce que l'entreprise veut dire par rapport à ce qu'elle a subi. Donc on saura pas forcément tout ce qui s'est passé, mais il y a des précautions qu'on peut prendre, puisque à partir du moment où il y a un doute, et à partir du moment où il y a un risque pour moi, mettons que le mot de passe que j'utilise chez Lagoon ce soit le même que celui que j'utilise sur l'accès à mon compte en banque, par exemple. On voit que tout de suite, là, il y a un risque. Si jamais il est divulgué, il y a un risque fort pour moi. Il y a un risque fort pour moi. Je change le mot de passe de ma banque et le problème est résolu.
C'est le premier réflexe à avoir, finalement.
Et ça coûte pas cher. Enfin, voilà. Vous voyez, en termes de risque, il y a un risque élevé et il y a une contre-mesure pour ce risque qui est pas cher et facile à mettre en œuvre. Donc, autant le faire.
tout simplement. Ouais. Et se tenir informé aussi, parce que c'est vrai que Lagoon communique notamment sur sa page Facebook avec des points réguliers.
Bien sûr. Ça c'est important aussi de savoir où ils en sont pour que ce qui m'arrive, je sache si c'est lié à l'incident ou si c'est autre chose. La communication c'est important en cas de crise. Ça permet de rassurer, ça fait retomber la pression quoi en fait. Hein. Ça évite que les gens spéculent et fantasment sur tout un tas de choses.
Eh bien merci beaucoup Laurent Rivaton d'avoir été avec nous ce matin.
Avec plaisir.